Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous, aujourd'hui on vous invite au dépaysement, pas très loin, toujours en Occitanie, près de Carcassonne. Odile et Eric Péchabre ont ouvert un hôtel dans les arbres. Ce sont des cabanes individuelles, plus ou moins perchées, en pleine nature. Un concept tendance qui fonctionne bien. Ouvert toute l'année, le domaine a su trouver sa clientèle. Bonjour Eric Péchabre.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur Radio Présence. Alors, les cabanes dans les bois, tout simplement, c'est le nom de votre établissement. D'ailleurs, on peut parler d'hôtel.
C'est un hôtel, c'est un établissement hôtelier. C'est-à-dire qu'on
trois étoiles.
Trois étoiles, validé par Atout France. C'est pas un camping, c'est un hôtel. Un peu insolite, mais c'est un hôtel.
Alors,
nos chambres sont des cabanes,
ouais.
Nos couloirs, ce sont des sentiers.
Ce sont des sentiers, voilà, que l'on rejoint à pied. Il n'y a pas de voiture dans le domaine.
Oui, il y a des petits véhicules électriques pour emmener les gens avec leurs bagages, mais après, ils se débrouillent.
Alors, Eric, comment ça fonctionne chez vous? C'est-à-dire que vous êtes installé près de Carcassonne, dans un vaste espace. Combien d'hectares?
Alors, en fait, on est à 10 minutes de la cité médiévale de Carcassonne. On est à 5 minutes de la rocade, dans un domaine agricole de 115 hectares qui est en exploitation. Dans lequel il y a de la luzerne, de la vigne, du blé.
Vous êtes exploitant agricole.
On est exploitant agricole. Et à côté de ça, dans le parc de la propriété, on a installé un hôtel.
Donc ce sont ces cabanes.
Voilà.
Alors, hébergement insolite, c'est vrai que ça fait rêver. Ce sont des concepts très tendance, on va dire. Pourquoi ça fonctionne bien, les hébergements insolites?
Ça fonctionne bien parce que, en fait, ça permet à la famille de se retrouver sur un laps de temps où on est un peu hors du temps. C'est un peu le même mécanisme que ce qui fait qu'une famille se retrouve quand elle va dans un parc d'attractions, que ce soit chez Disney ou au Puy du Fou. Il passe un moment de convivialité, on oublie un peu toutes les petites tensions qu'il peut y avoir pendant qu'on est là. Donc c'est effectivement un endroit un peu hors du temps, un peu hors du paysage et hors des voitures. Il y a de la connexion Wi-Fi, mais enfin pas partout.
Ouais.
Et même s'il y a une bonne couverture réseau, ce qui pose parfois des problèmes. Ça pose parfois des problèmes pour certains ados qui ont du mal à décrocher. Mais on a aussi un système de garde pour les gens qui veulent déposer leur téléphone et leurs ordinateurs avant de rentrer à l'hôtel.
Ah voilà, on peut faire de la digital détox
voilà,
chez vous.
Voilà, on peut faire de la détox.
Comment vous est venue cette idée avec votre épouse Odile de vous lancer dans l'hôtellerie? Vous n'étiez pas dans l'hôtellerie jusqu'à présent.
Non, pas du tout, mais elle en fait vient d'une famille d'hôteliers et elle a vendu son entreprise il y a 5 ans.
Ouais.
Et elle se trouvait bien jeune pour partir en retraite.
Mmh.
Et donc elle cherchait un concept hôtelier, soit un hôtel à racheter, soit un concept hôtelier à créer. Et donc, c'est là-dessus qu'elle a porté son dévolu.
Et vous accompagnez?
Moi, je suis le mari de madame.
Ah, c'est ça, voilà. Vous êtes le mari de la patronne.
Je suis le mari de la patronne.
Un grand communicant aussi, puisque vous étiez... Qu'est-ce que vous avez fait dans votre carrière, Eric, avant de devenir hôtelier?
Je n'ai pas fait grand-chose. Non, j'ai travaillé un peu dans la presse gratuite. J'ai monté les premiers gratuits dans la région de Lourdes, de Carcassonne, Narbonne, Montpellier, Béziers, que j'ai revendu ensuite au journal L'Indépendant.
Mmh.
Puis j'ai créé un certain nombre de radios locales en 81. Moi, j'étais plutôt dans la partie régie publicitaire. J'étais pas dans la partie produit, j'étais dans la partie régie publicitaire. Non, pas du tout. Et ensuite, on s'est associé avec le quotidien Midi Libre pour Radio Alligator, qui était une radio à Montpellier. Puis on s'est très vite pas entendu, enfin je me suis très vite pas entendu avec le garçon qui avait repris la direction de Midi Libre, qui était le fils du patron. Et donc on a créé la master franchise d'énergie dans le Midi. C'est-à-dire que ça allait quasiment de Bordeaux à Marseille. Puis, de fil en aiguille, on a créé le réseau Fun Radio.
Mm-hmm. Voilà.
Et donc je suis un des trois fondateurs du réseau Fun Radio. Où on a eu un certain nombre de péripéties, mais tout ça, c'est pas intéressant, c'est le passé.
Mais vous êtes ce qui veut dire tout de même, ça c'est important, vous êtes un entrepreneur dans l'âme.
Oui, ça, je suis un entrepreneur dans l'âme, fils d'entrepreneur et d'entrepreneuse. Ma mère et mon père étaient des entrepreneurs. Ma femme est une entrepreneuse. Et oui, on est d'une famille d'entrepreneurs.
Vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise, dans les cabanes
Non, il n'y a que ma femme et moi.
Vous êtes tous les deux, mais vous faites travailler des...
Ah oui, il y a 12 salariés.
Ouais.
C'est un hôtel qui, globalement, emploie 12 personnes, dont 8 en CDI à temps plein. Parce qu'on a préféré, on ne croit pas trop au temps partiel choisi. Pour moi, le temps partiel choisi, ça a toujours été quelque chose d'un peu un cache-misère qui fait que quelqu'un va travailler 100 heures et que ça lui suffit pour vivre. Donc, on est, dans l'hôtellerie, c'est difficile d'avoir du travail à plein temps toute l'année. Donc, nous, on est parti sur un choix de personnel qui était du personnel plutôt polyvalent et compétitif dans la mesure où ils acceptent cette polyvalence, dans la mesure où ça leur donne à la fois la garantie d'avoir un travail à l'année.
À l'année, c'est ça,
à temps plein, avec des périodes d'activité un peu moins fortes, comme c'est le cas en janvier, février, mars, et des périodes d'un peu suractivité, comme c'est le cas en juillet, en juin, juillet, août, septembre. Mais ils sont assurés d'un salaire à temps plein, et donc ça leur permet d'avoir une vie, de développer leur vie personnelle, indépendamment du... indépendamment de rechercher un petit boulot pour aller faire 3 heures de ménage par-ci, ou de la lingerie, ou ce qui fait que notre personnel fait à la fois de la lingerie, de la cuisine, ils peuvent intervenir en cuisine, ils peuvent intervenir à l'accueil, ils peuvent intervenir dans le ménage des cabanes, ils peuvent intervenir dans l'accompagnement des clients. Globalement, tout le monde peut intervenir au moins sur 3 postes différents.
Mais il y a un secteur aussi que vous avez réussi à développer, ce qui vous permet d'être ouvert toute l'année, c'est le côté séminaire.
Oui, alors ça, c'était plutôt inattendu, c'était plutôt une bonne surprise. Le concept avait été développé autour de la clientèle particulière, et dans la pratique, très vite, on s'est rendu compte que 23 cabanes, c'est 23 cabanes single, même si on peut, on a des cabanes pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7 personnes, mais en séminaire, les gens viennent souvent à 1 par une cabane, par cabane, donc même si on a des séminaires où ils sont 2 ou 3 par cabane, dans des cabanes où il y a plusieurs espaces de nuit différents, avec des mezzanines ou des cabines et des lits séparés, mais globalement, on s'est rendu compte que ça avait un attrait pour les entreprises, dans la mesure où ça permettait aux gens qui venaient sur place d'être à la fois ouverts, pas vraiment perturbés, et puis de leur proposer quelque chose d'un peu insolite qui les change des hôtels de chaîne qui accueillent d'habitude les séminaires.
Est-ce qu'on travaille mieux quand on est ouvert comme chez vous?
Tout dépend.
Quels sont les retours que vous
avez? Mais les gens sont assez contents parce que bon, on a eu la première année, on a eu 6 séminaires en 2014. La deuxième année, en 2015, on a eu 81 séminaires et on en a eu 115 en 2016. Donc globalement, on va dire que les gens sont contents. Je pense que les gens sont contents parce que la plupart des séminaires nous sont envoyés par des agences événementielles. C'est-à-dire que les entreprises ne nous appellent pas en direct. Il y a quelques entreprises qui nous appellent en direct ou quelques entreprises dont les gens sont venus passer à titre individuel avec leur famille un week-end ou 2 jours en semaine et qui se sont dit tiens, ça pourrait être une bonne idée. Mais globalement, 90% des séminaires qui sont accueillis aux cabanes nous sont envoyés par des agences événementielles dont c'est le métier, qui ont une clientèle, que ce soit par exemple à Toulouse, Airbus, Thales, Safran, la Tecoer, Unilever ou autre. Et donc, ils cherchent quelque chose d'un peu atypique. Ils cherchent à les dépayser. Et globalement, ça se passe bien puisqu'ils continuent à nous renvoyer pas mal de monde.
On parle là de la clientèle business, mais pour la clientèle loisir, est-ce que les clients viennent chercher autre chose chez vous qu'une simple chambre, en fait, une expérience?
Nécessairement. Au départ, on avait travaillé sur un positionnement marketing qui était sur l'insolite et les cabanes. Et on a des gens qui nous ont dit, mais vous devriez vous intéresser à la clientèle des gens qui cherchent une chambre d'hôtel à Carcassonne. Et donc, on a fait des opérations de commercialisation avec l'achat de mots-clés, avec des campagnes sur Internet, etc. Où on a présenté l'hôtel en tant qu'hôtel avec une... Bon, et on se rendait compte, finalement, que ça accrochait beaucoup moins que de simples... Enfin, que les campagne sur notre positionnement de départ, qui était le positionnement du séjour insolite. Quelque chose qui est notoire, c'est que on a à peu près, ça a fléchi un petit peu maintenant, mais en 2015, on avait presque 30% de la clientèle qui venait du département. Si vous habitez Ramonville-Saint-Agne, vous allez peu venir à l'hôtel à Toulouse. Ou si vous habitez Villefranche-de-Lauragais, peut-être.
Ouais. Bon, ou alors, il faut qu'il ait quelque chose de particulier.
Il faut qu'il ait quelque chose de particulier.
Cet hôtel.
Et donc, c'est un peu le fait. C'est on travaille sur l'aspect nature. Là, on a mis en place un parcours de tir à l'arc pour les enfants. On a des jeux de piste. On a un certain nombre de choses à faire sur la propriété, qui fait que les gens viennent, ils se retrouvent. En fait, ils viennent se retrouver, que ce soit un couple, on a pas mal de cabanes pour deux, donc on a des soirées romantiques, bien sûr, où on a aussi des soirées pyjama, vous savez, c'est 5 ou 6 filles de 25 à 60 ans qui se disent, allez, on va laisser nos maris ou nos amis et on va venir se lâcher un petit peu. Et donc, ils viennent passer une soirée aux cabanes où beaucoup de familles. On a quand même beaucoup de familles, beaucoup de grands-parents avec les petits enfants, on a beaucoup de familles.
Ouais, très très varié en fait.
Oui, c'est très varié.
Comment vous sentez venir la saison touristique 2017, elle est à nos portes. Est-ce que vous pensez que Carcassonne, j'allais dire, va générer encore autant de touristes que les années précédentes, ou ça va plutôt se stabiliser?
Non, Carcassonne, c'est une vitrine, c'est une chance extraordinaire pour la région. C'est entre, selon les affirmations des uns ou des autres, mairie, chambre de commerce, office de tourisme, etc., on est entre 3 millions et 4,5 millions de visiteurs par an. La cité de Carcassonne, quand vous ouvrez un livre d'histoire aux États-Unis, il vous explique la médiévalité avec une photo de la cité de Carcassonne. Oui, donc pour tous les Américains, ils sont pas très férus en histoire la plupart du temps, mais tous les Américains, la cité de Carcassonne, c'est le château médiéval. Ouais. Donc ça, c'est très fort au niveau des étrangers. Au niveau des Japonais, il y a une clientèle japonaise importante, il y a une clientèle étrangère très importante. Non, moi je pense pas qu'il y aura un souci particulier pour Carcassonne, mais la clientèle de Carcassonne reste quand même une clientèle essentiellement de passage pour la cité médiévale. Ouais. C'est-à-dire que les gens sortent Carcassonne-Est, ils viennent à la cité, ils repartent Carcassonne-Ouest et ils continuent leur voyage, ou inversement, et ils continuent leur voyage. Il y a relativement peu d'hôtels, relativement peu d'habitats pour accueillir tous ces touristes. Mais c'est vrai que visiter la cité de Carcassonne l'été, c'est pas la meilleure période.
Non, ça c'est
la
vrai.
La meilleure période, heureusement, c'est 10 mois sur 12, mais c'est plutôt hors été.
Bien sûr.
Et là, c'est magnifique, c'est formidable, c'est très joli. Et puis, il y a l'arrière-pays, il y a
la cité. Aussi,
la cité, c'est une chose, mais il y a l'arrière-pays, il y a les châteaux, il y a les grottes, il y a les paysages, il y a la montagne, il y a des balades formidables à faire en forêt, il y a tout un tas de. Enfin, c'est un endroit béni des dieux pour le tourisme.
Vous restez avec nous, Eric, à tout de suite.
Le goût d'entreprendre. Doris Pradal.
Et seconde partie du goût d'entreprendre, nous sommes aujourd'hui dans les cabanes dans les bois, près de Carcassonne. Bonjour Pierre-Yves Révillon.
Bonjour Doris.
Éric Péchabre est avec nous et première question à notre invité.
Je suis allé sur votre site internet et j'ai rêvé. Parce
c'est
que ces cabanes dans les arbres, en pleine verdure, en pleine nature, c'est vraiment très, très attrayant. Alors, je me suis quand même posé la question. Je ne vous ai pas encore entendu prononcer le mot écologie. Alors, je vais en parler un petit peu, peut-être, vous poser quelques questions là-dessus. Parce que vous êtes installé, j'ai bien compris, dans un domaine agricole, mais avec une partie boisée, dans lequel vous avez installé ces fameuses cabanes. Mais j'imagine que c'est quand même pas simple de construire des maisons dans les arbres, etc. Comment ça s'est passé? Comment le projet a été conçu? Avec qui? Comment? Etc.
Alors d'abord, ce ne sont pas des cabanes dans les arbres. Ce sont des cabanes dans les bois. Même si elles sont, quand on est sur les terrasses, on est entre 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 12 mètres de hauteur, selon les cabanes, on a bénéficié d'un emplacement géographique qui est que le parc de la propriété, le parc d'agrément de la propriété, qui date de la fin du 19e siècle, comme toutes ces propriétés agricoles de l'époque, a été planté sur un versant nord d'une pente à 30%. Donc c'est important, une pente à 30%. Mmh. Donc on va du sommet de la colline et on plonge en contrebas vers la rivière sur 100 mètres de dénivelé, enfin 30 mètres de dénivelé sur 100 mètres. Et donc on a choisi de s'appuyer sur les chemins pour faire démarrer chaque cabane. Donc chaque cabane, en dehors de deux cabanes, chaque cabane est accessible quasiment de plein pied du chemin, ce qui nous permet notamment d'avoir des cabanes accessibles handicapées. On est dans la démarche tourisme handicap, Et on a beaucoup de gens qui profitent de ces installations. Et on a des cabanes qui sont en général accessibles sans problème d'escalade ou de choses comme ça. Pour une autre raison, c'est que les premières cabanes qui ont été construites dans les bois et dans les arbres ont été construites en s'accrochant à l'arbre. Mais chose que les gens savent peu, on dit toujours le cœur de l'arbre, comme si le cœur c'était ce qui était vivant dans l'arbre. Or non, c'est pas vrai. Le cœur de l'arbre, c'est ce qui est mort dans l'arbre. La seule chose qui est vivante dans l'arbre, c'est ce qu'il y a entre l'écorce et la couche de l'année d'avant. Vous savez, c'est toutes ces petites stries qui nous permettaient quand on était petit de compter l'âge de l'arbre. Et donc, l'intérieur de l'arbre est mort. Le pourtour de l'arbre est vivant. Et on a construit beaucoup de cabanes à l'époque en serrant d'un collier et en suspendant les cabanes au sommet des arbres, ce qui a posé un certain nombre de problèmes et d'arbres qui meurent, et ensuite d'arbres qui et de cimes d'arbres qui peuvent tomber. Donc maintenant, quand on construit une cabane dans les arbres, on n'en serre plus, on essaie de plus en serrer ou de manière très légère la cime de l'arbre, mais on préfère carrément la traverser avec des tiges inox, avec un produit phytosanitaire qui permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas de champignons qui se développent à l'intérieur, que ce soit étanche, et pour laisser la sève continuer à passer dans la totalité du pourtour, ou presque, sauf le petit trou d'un centimètre et demi qui va supporter la tige inox. Et au niveau, donc les cabanes, ce sont des cabanes qui sont plutôt sur pilotis qu'accrochées dans les arbres, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des arbres qui traversent les cabanes, qui traversent les terrasses, selon les cabanes.
Mais alors vous avez travaillé, j'imagine, avec des architectes spécialisés, des entreprises qui travaillent le bois, enfin.
Absolument. On a travaillé avec un cabinet d'architectes, une équipe d'architectes de Grenoble et de Lyon, qui ont vraiment permis de nous dessiner des modèles qui ont été des modèles de cabane pour deux personnes, 4, 5, 6 personnes, 7 personnes. Et ensuite, on a travaillé avec notre architecte qui est un Toulousain sur l'implantation de ces cabanes. Donc là, il a fallu trouver, en abattant le moins d'arbres possible, on avait demandé à une expertise à l'ONF pour qu'ils nous disent quels étaient les arbres qui étaient les plus fragiles. Et globalement, ils nous ont dit que 99% des arbres qu'on avait étaient absolument pas fragiles, donc il fallait pas y toucher. Et on a positionné les cabanes en fonction des espaces qui existaient entre les arbres qui étaient plantés, ce qui fait qu'on n'a pas abattu d'arbres, pour planter nos cabanes.
D'accord. Pierre-Yves. Alors, vous avez choisi l'hôtellerie 3 étoiles, donc ça implique un certain nombre de standards de confort, notamment au point de vue sanitaire, les douches, les WC, etc. dans chaque cabane. Comment vous gérez tout ça ? J'ai vu dans un article qu'au départ, vous deviez faire une station d'épuration spéciale.
Oui, c'est le cas.
Vous avez été obligé de le faire, oui.
Non, on n'a pas été obligé. Quand on a un projet, où on fait les choses bien ou on ne les fait pas. Parce que à démarrer quelque chose et à investir des montants assez importants, il ne faut pas prendre un risque de mécontentement, soit des autorités locales qui ont le pouvoir de vous fermer pour une raison qui peut être X ou Y, soit dans les contraintes. La commune ne pouvait pas accepter un apport de 100 lits supplémentaires sur la station d'épuration. Non pas qu'elle ne souhaitait pas nous aider, elle était tout à fait d'accord, mais elle dit voilà, nous on a une station d'épuration qui est saturée et le département ne compte pas nous développer la station d'épuration avant 4, 5, 6, 8 ans. C'était il y a 4 ans, je crois que c'est toujours pas en projet. Donc ils nous ont dit il faudra que vous vous équipiez vous-même d'une station d'épuration. Donc on a fait les réseaux, on a profité des chemins pour faire les réseaux, pour amener l'eau, l'électricité, la télévision. On a poursuivi et au bout du domaine, à 600 mètres de la dernière cabane, on a fait une station d'épuration.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont défrayé la chronique. On a vu des centres de loisirs qui se sont installés dans des zones vertes, etc., où il y a eu des conflits quand même avec l'environnement, les associations qui ont protesté, etc.
Là, ça n'a pas été le cas. On n'a pas eu ce genre de problème. Les problèmes qu'on a eus, ça a été des problèmes d'obtention de permis de construire, parce que effectivement, la DDTM a été très vigilante sur ça. Donc, ils nous ont retoqué 3 fois le projet avant de dire bon, c'est bon. Et donc, ça nous a pris 2 ans et demi de démarche administrative pour aboutir au fait qu'on ait l'autorisation. Donc, c'est très long. On a failli se décourager plusieurs fois, mais bon. Vous savez, les projets qui ne voient pas le jour, c'est parce qu'on se lasse un peu trop. Mais là, en l'occurrence, on était accrochés sur ce projet et donc on a tenu.
Vous avez choisi de ne pas offrir de restauration. Il n'y a pas de restaurant sur place.
Il ne faut pas dire ça. On n'a pas un restaurant pour la clientèle extérieure. Par contre, les gens viennent dans une cabane pour vivre, ce qui est une cabane en bois, qui est isolée.
On ne peut pas cuisiner dans les chambres.
Ce n'est pas des gîtes, voilà, sont des chambres d'hôtel. Est-ce que vous iriez cuisiner au Novotel ou à l'Ibis? Non.
On peut essayer.
Si vous voulez venir avec une pizza, vous venez avec une pizza. Et c'est le même cas chez nous, il y a des gens qui viennent avec leur glacière. Même si bon... C'est pas pareil, mais non, on a nous une cuisine intégrée au niveau de l'hôtel et on livre les paniers, on livre des paniers avec des plats chauds, des entrées, des plats chauds et des desserts dans toutes les cabanes qu'ils souhaitent. On a à peu près une cabane sur deux cabanes sur trois qui prennent les menus. Dans les cabanes.
C'est ça.
Et là, ils ont une table avec des vraies nappes, des vrais couverts, des vrais verres, et des plats chauds, des plats froids, et ils ont des dîners. Les dîners commencent à 20 euros, je crois que c'est de 20 à 38 euros aujourd'hui, un peu moins cher pour les enfants, je crois que c'est 13 euros. Et sinon, pour les petits déjeuners, il n'y a pas de salle avec de salle de petit déjeuner, on vous amène le petit déjeuner dans la cabane avec votre boisson chaude, votre jus de fruits, les croissants, le pain, la confiture, les yaourts, si
et vous voulez. Panier,
et un petit panier.
Que l'on suspend à un clou près de la porte.
Voilà, qu'on suspend à un clou près de la porte et qui attendra que vous vouliez le prendre à l'heure que vous avez demandé.
Pour éviter que les sangliers...
Je voudrais revenir sur... Oui, pour éviter que les sangliers viennent blotter. C'est surtout le clou, c'est surtout pour que les gens, quand ils ont dîné, ne laisse pas le panier par terre devant la porte parce que les sangliers viennent finir ce qui est dans le panier. On n'a pas parlé, j'ai pas répondu à votre question sur l'écologie.
Si, vous avez.
Non, mais on est en certifié. Là, on est en conversion bio sur le domaine agricole. Alors c'est assez long. On a obtenu la labellisation d'EcoCert cette année. C'est sur 3 ans. Donc on est en conversion bio pour la totalité des exploitations agricoles, sauf pour la vigne. La vigne, on va passer en conversion bio, à mon avis, pas avant 2 ans encore. On va rester dans le schéma traditionnel, mais d'ici 2 ans, on passera aussi la vigne en conversion bio.
Alors moi, il y a quelque chose qui m'a quand même un petit peu intrigué, c'est le concept, c'est à la fois être dans la nature. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur les familles qui viennent se ressourcer ensemble, se mettre au calme, etc. Et en même temps, vous êtes quand même dans un confort très urbain avec le Wi-Fi, le téléphone, la télé. J'ai vu qu'il y avait... Comment ça se gère? Comment les clientèles, parce que ce n'est peut-être pas les mêmes, arrivent à se retrouver dans cette offre très large?
Alors, le problème, c'est que qui dit famille dit télé. Curieusement. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait pas prévu de télé. Et on nous a dit, mais attendez,
il
pas de télé,
chose.
Mais vous êtes fous, c'est pas possible. On ne peut pas venir avec des enfants s'il n'y a pas la télé. Ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Et donc, on a mis la télé, voilà. On a mis la télé dans chaque chambre, il y a la télé. Il n'y a pas le Wi-Fi dans la plupart des... Le Wi-Fi n'est pas dans les cabanes. Le Wi-Fi est sur les terrasses, à la piscine, dans les salons d'accueil, etc. On a un positionnement, vous le disiez tout à l'heure, on a un label de 3 étoiles. Alors, 3 étoiles, nouvelle norme. Il faut savoir que tous les... une étoile sont devenues 2 étoiles, les 2 étoiles sont devenues 3 étoiles, les 3 étoiles sont devenues 4 étoiles. Quand on a fait notre grille de classement et quand on a été audité par Atout France qui donne le label nombre d'étoiles, ils nous ont dit, vous savez, refaites une demande en 4 étoiles, vous avez suffisamment de points. C'est tel espace égale tant de points, telle lampe de chevet égale tant de points. Il faut avoir X points pour avoir, et en fonction du nombre de points, vous avez un nombre d'étoiles. Mais il faut faire la demande. C'est-à-dire que si vous demandez 1 étoile et que vous pouvez avoir un 4 étoiles et demander 1 étoile, vous n'aurez qu'une étoile. Nous, on avait et globalement, on avait le nombre de points suffisant pour avoir 4 étoiles, mais on voulait avoir un positionnement en 3 étoiles pour ne pas avoir cette capacité d'effraiement de la clientèle locale pour dire, oh là là, 4 étoiles quand même, on peut pas regarder. Donc, c'était un positionnement marketing, là, plus qu'un positionnement de réalité.
Il faudrait créer un nouveau label, au lieu de mettre des étoiles, mettre 3 écureuils, par exemple.
Non, on peut pas multiplier, il y a suffisamment de labels, les gens ne comprennent pas grand-chose. On avait en France, vous savez, pourquoi est-ce que maintenant on a rétabli la grille d'étoiles telles qu'elles sont aujourd'hui? C'est pour que ça ressemble plus aux critères internationaux. C'est-à-dire qu'en France, quand vous alliez au Maroc, en Pologne ou aux États-Unis dans un 3 étoiles, vous étiez dans un Formule 1 en France. Donc c'est encore ça la réalité. Et là-bas, vous êtes dans des 5 étoiles, 6 étoiles quelquefois. Donc en France, ils ont fait 5 étoiles, 5 étoiles luxe, mais pour les palaces, mais c'est vraiment très... C'est une norme mondiale, donc il faut...
On
pourrait mettre les écureuils, mais il faut essayer d'enlever... Laissons les gens les repères qu'ils ont. Il faut qu'ils aient des repères. Et quand vous disiez les familles viennent se ressourcer, Moi, je pense qu'elles viennent plus vivre des émotions ensemble, partager des choses que sur... Ils affirment pas « on vient se ressourcer », mais ils viennent en espérant qu'il se passera quelque chose de bien et qu'ils vont vivre quelque chose de sympa. Et nous, on est là pour essayer de leur faire vivre quelque chose de sympa. On est au bord du canal du Midi, donc ils peuvent venir avec les vélos.
Les familles ne cohabitent pas avec les séminaires.
Ah non. Enfin, si on a un séminaire de 15 personnes, comme c'est le cas cette semaine, il y a deux cabanes qui sont prises par des individuels. Bon, elles sont pas... Et ne cohabitent pas. Chacun vit sa vie.
À son espace.
Chacun chez soi. Puis bon, les séminaires, ils passent leur journée dans la salle. S'ils font une activité à l'extérieur, que ce soit un parcours de santé ou un jeu de piste ou une chasse aux faucons, ils vont pas le faire. Ça va pas interférer sur la vie personnelle du couple ou de la famille qui sera là et qui.
On va terminer là-dessus, Eric. Vous êtes un petit peu pris par le temps. Vous allez agrandir, vous avez des projets de développement. Ça veut dire que ça fonctionne plutôt très bien.
Ça fonctionne bien et on a des projets de développement. C'est-à-dire qu'on
a
un permis de construire qui nous a été accordé pour 30 cabanes. Donc là, on va finir la construction des 7 cabanes qui manquent. Et quelques travaux pour les séminaires aussi, d'aménagement dans les salles. Ça, c'est le premier. C'est des projets pour cette année.
Merci à vous. On vous laisse retourner dans votre cabane.
Merci.
Vous êtes un homme des bois.
Absolument,
on vous trouve facilement sur le site lescabanesdanslesbois.fr. Merci à vous. Merci Pierre-Yves Révillon. Entreprendre@radioprésence.com pour nous joindre. C'est très simple.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.